Nous serons dans la première épître de Pierre, chapitre 3 aujourd'hui. À partir du verset 13, nous avons vu les 12 premiers versets depuis quelques semaines. Et nous voyons que Pierre, étant totalement transformé par Dieu, malgré son rejet, malgré une sorte de trahison de sa part, où il renie complètement connaître Jésus, il a été restauré. Et parce que Dieu l'a restauré, Dieu lui a donné la capacité de transmettre un enseignement à ses frères et sœurs en Christ. Et cet enseignement nous a été préservé jusqu'aujourd'hui. Et les chrétiens auxquels Pierre écrivait au 1er siècle étaient confrontés à un ensemble de choses similaires à nous. Même si c'était il y a 20 siècles, des choses similaires à notre situation aujourd'hui, ces chrétiens auxquels Pierre écrit avaient des difficultés, avaient la persécution, étaient mal compris. Et Pierre leur écrit et leur donne un ensemble d'enseignements assez pratiques, et cela est juste pour nous. C'est quelque chose que nous pouvons apprendre et bien sûr mettre en pratique aujourd'hui. Alors, nous allons voir les versets 13 jusqu'au verset 17. Aujourd'hui, j'ai hésité parce que Pierre, il suit son raisonnement jusqu'à la fin du chapitre et même jusqu'au chapitre suivant. Et donc, parfois, vous savez, je l'ai déjà expliqué, c'est un peu difficile à savoir où s'arrêter. Parce que Pierre, c'est une idée complète qui est là. Et pourtant, et à un moment donné, il faut se dire, on va se concentrer sur ce passage, sinon on serait ici pendant des heures et des heures. Donc, nous allons examiner aujourd'hui 1er épître de Pierre, chapitre 3, versets 13 à 17. Je vais lire ces versets, suivez avec moi. Ensuite, nous allons prier. « Et qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien ? D'ailleurs, même si vous souffriez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Et, ayant une bonne conscience, afin que là même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrient votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. » Prions pour demander l'aide de Dieu. Oui, Seigneur, nous implorons ton aide pour comprendre ta parole. Donne-nous l'intelligence nécessaire pour comprendre ce que tu as pour nous, que tu travailles notre cœur et que par ta puissance, tu nous aides à la mettre en pratique de plus en plus, au jour le jour, à travers la vie que tu nous donnes. Nous sommes confiants que tu le feras, Seigneur, et c'est parce que tu le feras que nous pouvons te remercier de l'avance de ce que tu feras. C'est en ton nom que nous prions. Amen. Pierre va dire un ensemble de choses très, très dures dans ce passage. Et je peux vous avouer franchement que j'aurais presque envie que Pierre ne les dise pas. Parce que ce qu'il décrit ici est à la fois extrêmement dur, difficile à comprendre. Et au-delà de cela, on se dit, mais comment est-ce possible de mettre ça en pratique dans ma vie aujourd'hui ? C'était peut-être bien pour les gens il y a 2000 ans, mais ma circonstance fait que là, ce n'est pas possible. Pierre, il ne comprend pas ma situation de toutes les façons. Il est mort et voilà, ma situation, elle est particulière et là, c'est pas possible. Et pourtant, c'est la parole de Dieu, vous le savez. Et ce que Pierre écrit ici vient de Dieu. C'est quelque chose que Dieu a voulu dire aux chrétiens du 1er siècle, mais également il a voulu le dire aux chrétiens, aux enfants de Dieu, à Vernon, le 13 mai 2018. Donc c'est pour nous. C'est pas juste du passé, mais c'est quelque chose d'actuel. Et lorsque nous commençons avec ce verset 13, il est assez intéressant de voir comment Pierre, il fait le lien avec ce qu'il vient de dire et ce verset 13. Puisqu'il dit « Qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien ?» Et la réponse à cette question qu'on pourrait donner, c'est ben, tous ceux qui n'aiment pas Dieu. Si nous sommes zélés pour le bien, si nous agissons selon la parole de Dieu, qui va nous maltraiter ? Ben, les gens qui n'aiment pas Dieu, n'est-ce pas ? Les gens qui sont égoïstes, les gens qui ne pensent qu'à leur avancement particulier. Et pourtant, ce que Pierre semble sous-entendre, c'est ben, personne. Qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien ? On a l'impression que Pierre, il sous-entend la réponse, ben, personne. Et là, on se gratte la tête un peu et on se dit, mais comment est-ce possible ? Comment Pierre peut-il laisser entendre que personne ne peut nous faire du mal alors que nous sommes zélés pour le bien ? Parce que nous subissons tous soit de la moquerie, soit de l'incompréhension, soit des obstacles dans la vie, parce que nous faisons ce qui est bien. Encore si on agissait mal et qu'on est soit puni ou repris ou autre, c'est normal. D'ailleurs, Pierre, il va le dire ici. Mais quand on fait le bien, quand même, on agit pour Dieu, on fait ce que la Bible dit. Et là, on cherche à nous faire du mal. Et il est assez intéressant qu'au verset 12, si vous vous souvenez la semaine dernière, qu'est-ce que Pierre, il avait dit concernant le mal ? Oui, les yeux du Seigneur, verset 12, sont sur les justes, ses oreilles sont attentives à leurs prières, ça c'est formidable. Mais regardez la fin du verset, la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Et tout de suite, ceci devrait nous encourager. Pourquoi ? Parce que lorsque on nous fait du mal, et ça arrive, lorsque nous sommes zélés pour le bien, lorsque nous faisons ce que Dieu dit dans sa parole, bah, on va nous attaquer de différentes manières, soit verbalement, probablement pas physiquement, mais verbalement. On va nous mettre des bâtons dans les roues, on va nous empêcher d'avancer peut-être dans notre carrière. On aura un ensemble de soucis, mais à ce moment-là, de se souvenir que peu importe ce que les autres nous font, bah, Dieu est pour nous. Il ne nous laisse pas seuls face à ces choses. En disant, mettez en pratique ma parole et débattez-vous avec toutes vos forces quand vous pouvez, débrouillez-vous. Non. Dieu est avec nous. Et Dieu se dresse lui-même contre ceux qui font le mal. Et ceux qui sont contre nous parce que nous faisons le bien, ben, eux, ils font le mal. Et Pierre est en train de montrer ici que Dieu est contre ces personnes-là. Et parce que Dieu est contre eux, finalement, ben eux, ils ne peuvent rien. Parce que c'est toujours sous le contrôle de Dieu. Et Pierre dit, qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien ? Ben, au final, personne. Parce que Dieu est pour nous. Et lorsqu'on se souvient de cela, chaque jour, oh, nous faisons face à des difficultés et comprenons bien les difficultés de la vie, elles sont bien réelles. Il ne faut jamais les minimiser. Les difficultés de la vie sont bien réelles, mais encore plus réelles, si cela peut exister, c'est le fait que Dieu est avec nous lorsque nous mettons en pratique sa parole. Lorsque nous obéissons à ce que Dieu dit dans sa parole, lorsque nous ne faisons pas de compromis, lorsque nous réagissons bien, à ce moment-là, le Dieu tout-puissant de l'univers est devant nous et c'est lui qui nous protège. Et à ce moment-là, ben, comment parler de mal ? Puisque au final, les gens ils s'attaquent pas vraiment à nous. Il ne faut jamais le prendre ces attaques personnellement. Non, c'est finalement contre Dieu. Et lorsque nous avons cette perspective, ben, nous pouvons être comme Pierre, qui a accepté la persécution. Et au verset 14, c'est ça qui lui permet de dire quelque chose qui est tellement difficile à accepter. Je l'avoue, je l'accepte parce que c'est la parole de Dieu qui le dit, mais je vous avoue que j'ai du mal par moment. Verset 14, Pierre dit, « D'ailleurs, même si vous souffriez pour la justice, il admet ici que quand on fait le bien, bah, parfois, bah, on n'est pas content avec nous. Parfois, on va se dresser contre nous, on va nous faire du mal. » Et Pierre dit, bah, « Même lorsque ça arrive, vous seriez heureux.
Ah. »
Wow. Souffrance, heureux, sont deux mots qui ne devraient jamais se trouver dans la même phrase. Et pourtant, ici, Pierre dit, même s'il arrive qu'on souffre, qu'on nous fait du mal parce qu'on est pour le bien, à ce moment-là, on peut être heureux. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Pierre. J'aurais presque voulu qu'il ne le dise pas. Parce que ce serait tellement plus simple de dire, ben, quand on me persécute, quand on me fait du mal, quand on m'arrête, quand on me met des obstacles et tout, ben là, j'ai tout à fait le droit de m'apitoyer sur moi-même, d'être découragé et de dire « je n'en peux plus ». En moi-même, j'aurais préféré que Pierre y dise ça, parce que ce serait tellement plus facile, humainement parlant. Mais non, qu'est-ce qu'il dit ? Il affirme, puisqu'il avait vécu lui-même, que même si on souffre en faisant le bien, là, on peut être heureux. Et si ce n'est pas radical, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Et cela est quelque chose de surnaturel. Ça ne vient pas de nous. Ce n'est pas avec mon caractère, avec mes acquis, avec ma propre force que je peux avoir cette sorte d'endurcissement en disant « ouais, ben, je continue, malgré tout, je grince les dents et puis voilà ». Je continue. Non, 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 non. Il dit, vous seriez heureux. Et encore une fois, pourquoi ? Ben parce que Dieu est avec nous. Et comme Paul, lui, il va dire, si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous ? Et là aussi, ce qui est sous-entendu, c'est personne. Et nous comprenons pourquoi Pierre, ici, il termine ce verset 14 en disant, n'ayez d'eux aucune crainte. Ne soyez pas troublés. Et en fait, il va employer presque les mêmes mots. N'ayez pas de crainte et n'ayez pas non plus de crainte. Ne soyons pas troublés. La crainte, oui, elle trouble et elle déstabilise. Et Pierre dit ici, bah, non, des personnes qui nous veulent du mal, bah, il ne faut pas les craindre. Il ne faut pas essayer de s'échapper à tout prix. Bien sûr, on ne cherche pas le malheur, on ne cherche pas la persécution en soi. Mais si ça arrive, à ce moment-là, de ne pas être troublé par cela, de ne pas être déstabilisé, de ne pas tomber. Pourquoi ? Ben, encore une fois, parce que Dieu est avec nous. C'est ça qui change tout. Et au verset 15, nous voyons le résultat, puisque Dieu ne veut pas que ses enfants supportent bien la persécution, des attaques, des circonstances difficiles, juste parce que Dieu n'est pas un Dieu sadique, nous le comprenons. Dieu n'envoie pas des épreuves, il ne permet pas la persécution parce qu'il n'a rien d'autre à faire, ou parce qu'il est impuissant pour arrêter ces choses. Non, loin de là. Dieu, il a un but. Et au verset 15, Pierre commence à ouvrir la porte pour nous laisser entrevoir ce but de Dieu. Il dit, mais, au lieu d'être dans la crainte, au lieu d'être troublé par ces choses, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. Sanctifiez, c'est-à-dire mettre à part. Cette idée de sanctification, notamment dans l'Ancien Testament, et c'est là où Pierre il va puiser ce mot, c'était de mettre à part. Et dans l'esprit des Juifs, la distinction entre ce qui était saint, ce qui était sanctifié, et ce qui était des choses de tous les jours, bah, cette distinction, elle était radicale dans l'esprit des Juifs. Et il n'était jamais question d'utiliser les choses de tous les jours pour les affaires de Dieu. Et cette sanctification impliquait à la fois du temps, impliquait tout un processus par lequel il fallait passer pour se purifier, pour se mettre en règle devant Dieu, afin de pouvoir s'approcher de lui. Et lorsque Pierre, il emploie ce mot « sanctifier », ben, tout de suite, ceux qui ont lu cette lettre, ils auraient pensé au système de sacrifice dans l'Ancien Testament. Et ils auraient tout de suite compris qu'il devait avoir une distinction. Que les choses de tous les jours, les choses communes, les choses avec un usage banal, étaient à mettre de côté. Et quand Pierre dit ici « sanctifiez dans vos cœurs », donc là c'est quelque chose de spirituel, c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur, et puis c'est quelque chose d'individuel. Moi je ne peux pas sanctifier Jésus-Christ dans le cœur de quelqu'un d'autre. Je peux aider cette personne, je peux l'enseigner, mais je ne peux pas le faire à sa place. Non, c'est spirituel, c'est intérieur, c'est individuel. Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. Mais concrètement, comment est-ce qu'on fait ça? Sanctifier Christ, ben, c'est assez vague, ça. On ne le voit pas, c'est immatériel. Et on dit, ok, très bien, sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. Ok, formidable, chacun prend la décision, je vais sanctifier Christ en mon cœur. Et ensuite? Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Ben, finalement, ce que Pierre est en train d'expliquer dans ce passage, c'est qu'il faut passer du temps avec Christ. Et comment est-ce qu'on passe du temps? Parce que cette idée de sanctification, c'est mettre à part, donc on met à part Christ dans le but de passer du temps avec lui. Et comment est-ce qu'on fait ça? Ben, vous le savez, je ne vous apprends rien, la lecture de la Bible. Passer du temps avec Christ implique passer du temps dans la Bible. Nous avons un nombre d'heures limité dans la journée. Si on dort plus ou moins, ben, le nombre d'heures est plus ou moins limité. Dieu nous accorde un certain nombre d'heures dans la journée. Et qu'est-ce que nous faisons de cela? Il y a des loisirs, rien de mal avec des loisirs. Ce matin, en voyant des versets en Ecclésiaste, nous voyons que Dieu veut qu'on profite de la vie. Hein? Cette vie, Dieu nous l'a donnée, il veut qu'on en profite. Mais avec nos loisirs, avec nos responsabilités légitimes que nous avons, quelle place accordons-nous à la lecture de la Bible? Parce que c'est en passant du temps dans la Bible que nous allons connaître Dieu, connaître Jésus-Christ, et nous allons pouvoir le mettre à part. Nous allons pouvoir le mettre à sa juste place dans notre vie. Sanctifier dans vos cœurs Christ le Seigneur montre que nous devons passer du temps avec lui, par la lecture de la parole, par la prière. La prière est quelque chose d'important et j'aimerais croire, j'aimerais être totalement convaincu que chacun ici a une vie de prière à la maison, chez soi, formidable. Que vous priez énormément chez vous. J'aimerais le croire. Et peut-être je suis naïf, mais voilà, j'aimerais le croire. Que Dieu me pardonne, peut-être j'ai quelques doutes par moment. Je me dis, on ne prie pas assez. Moi, je sais que moi, je ne prie pas assez. Et quand je vois les réunions de prière de l'Église, que ce soit les réunions le mardi soir, la réunion de prière d'hommes, bon, pour les réunions de dames, j'y suis pas, mais voilà. Je me dis, il y a peut-être un manque de prière. Et s'il y a un manque de prière, devrions-nous être étonnés qu'il y a un manque de puissance de la part de Dieu? Est-ce que nous devrions être étonnés que nous sommes troublés, que nous n'avons pas la joie si nous ne prions pas, si nous ne prenons pas le temps, si nous ne faisons pas de la prière une priorité? Tout cela fait partie de sanctifier Christ dans notre cœur. Mais Pierre, il va apporter cette précision en disant « Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur ». Alors, qui dit « Seigneur » dit « le droit de commander ». Et ça, on n'aime pas trop. Malheureusement, surtout la société aujourd'hui nous apprend à ne laisser personne nous dire ce que nous devons faire, ce que nous devons croire, ce que nous devons penser. Non, on est libre. Là, personne ne me dira quoi que ce soit. Je fais mon choix et à point, c'est tout. Et parce que les chrétiens peuvent se laisser influencer par la société dans laquelle ils vivent, lorsque nous voyons que, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons Christ comme Seigneur et qu'il a le droit, et il le fait, de nous dire ce que nous devons faire, ce que nous devons dire, ce que nous devons penser, le chrétien court le risque de suivre la société et dire « je fais ce que je veux ». Dieu, il aura éventuellement son petit mot à dire, mais pas trop quand même. Mais ça, c'est pas mettre Christ en avant comme Seigneur. Jésus a bien dit, vous m'appelez Seigneur, Seigneur, pourquoi vous ne faites pas ce que je vous dis? Ça ne sert à rien de dire que Christ est notre Seigneur si on ne prend pas au sérieux ce qu'il dit, si on n'obéit pas à ce qu'il dit. Alors de deux choses l'une, soit nous arrêtons d'appeler Christ Seigneur parce que on montre manifestement qu'il n'a pas le droit de régner dans notre vie, ou bien on commence à se soumettre et à obéir à ce Seigneur dans notre vie. Et bien sûr, ce que Dieu veut, c'est qu'on se soumette, qu'on soit obéissant. Mais dans le verset 15, Pierre va dire « Il faut sanctifier le Christ, le Seigneur, dans son cœur, donc à l'intérieur, dans un but spécifique. » Ce n'est pas juste pour que les gens voient combien nous sommes spirituels. Ce n'est pas pour dire « Ah ouais, telle ou telle personne, il prie beaucoup, il lit la parole, prend de bonnes décisions, a une bonne vie, et regardez-moi ce chrétien-là, chrétien super spirituel. » C'est le Captain America des chrétiens. Non, ce n'est pas le but, vous le savez. Pierre dit, étant, quand on fait le début du verset 15, nous serons capables de la suite, étant toujours prêts à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Et là, on se dit, c'est extrêmement difficile. Parce que être toujours prêt, si aujourd'hui quelqu'un venait vers vous et vous posait la question, pourquoi êtes-vous enfant de Dieu? Pourquoi êtes-vous chrétien? Quelle serait votre réponse? Je ne sais pas, moi. Parce que les gens à l'église, ils sont sympas. Bon, veille qu'ils soient sympas. Parce que je suis toujours allé à l'église. Parce que mes parents le sont. Parce qu'on m'avait dit que c'était la chose à faire. Parce que je n'ai rien d'autre à faire le dimanche matin. Pourquoi est-ce que je suis chrétien? Parce que je ne veux pas trop d'ennui dans la vie. Ça, ce sont de mauvaises raisons. Ici, Pierre dit de se défendre, d'avoir une raison pour l'espérance qui est en nous. Pierre sous-entend que les personnes auxquelles il écrivait avaient une espérance. Et si nous sommes sauvés aujourd'hui, nous avons une espérance. Et ce n'est pas l'espérance qu'apporte l'État français. Ce n'est pas l'espérance qu'apporte n'importe qui sur la terre. C'est l'espérance qui se trouve en Jésus-Christ. Et à n'importe quel moment, nous devons être prêts à dire aux gens, j'ai une espérance, non pas parce que j'ai la bonne santé, non pas parce que j'ai une maison, non pas parce que mon compte en banque est rempli, non pas parce que j'ai une bonne assurance, non, j'ai une espérance parce que j'ai Christ comme sauveur. C'est ça qui doit être notre réponse. Et le terme que Pierre il va employer, il va dire, étant toujours prêt à vous défendre. Pas défendre dans le sens « on va attaquer ». Non, mais les gens, ils vont nous poser des questions. Et ils vont essayer de nous déstabiliser. Ne soyons pas naïfs, crédules là-dessus. Les gens, ils vont essayer de nous déstabiliser en disant « vous croyez encore à la Bible ? Vous croyez encore à ces vieilles histoires ? Mais on est quand même au 21e siècle ». L'homme a évolué, nous avons la science, nous avons tous ces progrès. Et à ce moment-là, oui, il y a une défense qui doit être là en disant ce que la Bible dit est vrai. ce que Dieu dit dans sa parole se confirme. Et je place ma confiance en cela, et c'est parce que j'ai cette confiance dans la Bible et en Dieu que ben, je peux répondre, je peux défendre. Et Pierre va ajouter deux mots à cette idée de défense. Deux mots qui sont tellement, tellement importants aujourd'hui, parce qu'ils manquent cruellement. Douceur et respect. Il semble que ces deux mots sont complètement absents de la société aujourd'hui. Vous regardez un débat. Moi, je ne peux pas les regarder aujourd'hui. Pourquoi ? Bah, parce que les gens, ils parlent en même temps. On interrompt. On ne laisse pas l'autre personne terminer. On va dire, oui, il a dit cela, mais finalement, ce n'était pas ça. Il n'y a aucune douceur. Il n'y a aucun respect. Et pour les chrétiens, ça doit être tout autre. Et ce que Pierre dit, c'est cette douceur, ce respect, bah, doit être envers quiconque nous demande la raison. Quiconque nous pose la question, mais pourquoi est-ce que vous croyez dans la Bible? Pourquoi est-ce que vous avez cette espérance? Pourquoi est-ce que vous êtes chrétien? Quiconque nous pose ce genre de questions, nous devons répondre avec douceur et respect. Et pour certains, c'est assez facile. Bon, les gens, ils sont curieux, ils veulent savoir un peu sur notre vie. Et voilà, on leur répond, voilà, je suis chrétien parce que... Et puis, on explique les vérités bibliques. Avec d'autres, c'est beaucoup plus difficile. Parce qu'eux, ils ne sont pas agréables. Eux, ils peuvent être agressifs. Eux, ils peuvent essayer de nous troubler, de nous attaquer. Et même devant ces personnes-là, nous avons l'obligation, selon la parole de Dieu, d'agir avec douceur et respect. Devant Dieu, est-ce que je peux, de façon honnête, dire ma réaction devant quiconque me parle de la Bible et la douceur et le respect? Est-ce que c'est mon témoignage? Par la grâce de Dieu, ça peut l'être. Mais malheureusement, ben, nous nous rendons compte que parfois, on ne répond pas bien. On est peut-être fatigué, on a peut-être passé une mauvaise journée, X circonstances arrivent, et puis quelqu'un nous parle de la foi, quelqu'un nous pose des questions, et là, on s'emporte. Et on est en porte-à-faux avec ce verset. Il n'y a pas de douceur, il n'y a pas de respect. Et pourtant, c'est ce que Dieu veut voir dans ses enfants. Cette douceur, ce respect, finalement, c'est Christ qui nous donne l'exemple. On l'a battu, on lui a craché dessus, on lui a arraché sa barbe. Quand je lis ces versets dans les évangiles, quant à la crucifixion de Jésus, moi qui me suis laissé pousser la barbe un tout petit peu, je me dis, arracher ça, combien ça devait faire mal? Et pourtant, il n'était jamais amer, il n'a jamais mal répondu, il n'était jamais en colère. Et on va dire, oui, mais c'est Jésus, c'est normal. Il est le Fils de Dieu, il est Dieu, il est normal, il ne pouvait pas faire autrement. Okay, oui, peut-être, d'accord, mais Jésus, il vit en nous. Et c'est lui qui nous rend capables d'avoir ces sentiments et cette réaction que nous voyons dans ces versets. Le croyons-nous? Ou est-ce que nous croyons que c'est juste pour les autres? Pour les chrétiens super spirituels, eux, ils peuvent le faire. Mais moi, simple chrétien, aujourd'hui, non, c'est au-delà de ce que moi je peux faire. Ouais, peut-être bien, mais ce n'est pas au-delà de ce que Dieu peut faire en vous. Et Pierre dit ici, toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque, peu importe, quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Et c'est ça qui permet le verset 16. Vous voulez avoir une bonne conscience? Vous savez, parfois notre conscience n'est pas toujours bonne. On se sent coupable, parce que parfois on l'est. Mais Pierre dit, vous voulez avoir une bonne conscience? Verset 16, ayant une bonne conscience, pourquoi? Afin que là même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Ne soyons pas crédules. Ne soyons pas naïfs, il y a des gens qui veulent nous faire du mal. Il y a des gens qui vont raconter des mensonges sur nous. Il y a des gens qui vont chercher par toutes les manières de dire, de faire du mal contre nous. Et à ce moment-là, notre conscience doit être pure devant Dieu pour que ce qu'ils disent ne soit pas vrai. Parce que si les ennemis de Dieu peuvent pointer du doigt dans notre vie et montrer « Ah, cette personne a fait ceci, a mal agi, a mal répondu, a eu un mauvais esprit. » Et si ça c'est vrai, ben là on n'a pas de bonne conscience. Mais si quelqu'un commence à raconter des mensonges sur nous, et on se rend compte que effectivement ce sont des mensonges, là on a la conscience tranquille. Devant Dieu, on se dit, mais non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas réagi de cette façon. Par la grâce de Dieu, j'ai bien réagi. J'ai dit ce qu'il fallait. J'ai agi avec douceur, avec respect. Et ceux qui vont chercher à nous faire tomber, qui vont mal parler de nous aux autres, bah finalement, Pierre va dire, eux, ils seront couverts de confusion. C'est comme une couverture qui complètement les couvre. Ils ne pourront pas faire autrement. Alors que nous, notre conscience, elle sera tranquille devant Dieu. Et Pierre dit ici, il y a des gens malheureusement méchants dans le monde. Ils vont chercher à faire du mal, à dire du mal de nous. Et il faut en tant qu'enfant de Dieu s'assurer que ce mal qu'ils disent ne soit pas vrai. Malheureusement, combien de fois dans notre vie, parce que nous avons succombé à la tentation, nous nous sommes emportés, nous avons mal agi, que ce qu'on raconte est vrai. Notre témoignage est entaché. Et à ce moment-là, ce n'est pas eux qui sont couverts de confusion, c'est nous. Et nous avons besoin de demander pardon à Dieu pour cela. Pierre dit, dans toutes circonstances, il faut agir comme Christ. Lui qui n'a jamais mal répondu, lui qui n'a jamais mal agi, lui qui agissait toujours avec douceur et respect, il est capable de nous aider à faire pareil. C'est quelque chose qui est possible par la puissance de Jésus. Et Pierre va terminer ce passage avec le verset 17. Quelque chose que, je pense, nous ne voulons pas trop entendre, comme si ces autres choses étaient faciles. Non, les autres choses étaient difficiles à un peu accepter, comprendre, surtout mettre en pratique. Mais verset 17, on se dit, mais non, c'est pas possible. Là, Pierre, tu te trompes, certains diraient peut-être, mais non, Pierre se trompe pas. Verset 17, il dit, il vaut mieux souffrir. Quoi ? Non, mais là, les traducteurs, ils n'ont pas dû bien comprendre ce que Pierre il a dit. Hein. Et dans la traduction du grec au français, il devait y avoir quelque chose. Parce que c'est pas possible que Pierre il dise ça. Il vaut mieux souffrir. Non, mais c'est quoi ça? Eh oui. Par contre, il y a ce grand « si ». Ce petit mot qui change tout. « Si ». Si telle est la volonté de Dieu. Souvent, nous avons cette impression que la volonté de Dieu, elle n'est que les choses faciles, agréables, douces, toujours le bonheur, toujours tout qui marche comme il faut. Et Pierre nous révèle ici que par moment, alors attention, prêtons bien attention, par moment, c'est pas tout le temps. Et j'irai jusqu'à dire c'est rarement. Mais ceci arrive. Il est parfois la volonté de Dieu que on souffre. Et là, on va dire, mais Dieu, il est un Dieu d'amour. Comment un Dieu d'amour pourrait permettre, et pas simplement permettre, mais c'est dans sa volonté que ses enfants souffrent. C'est pas possible. Non, si c'est ça Dieu, certains vont dire, moi je veux pas. Moi je veux la bonne vie. Moi je veux aucun souci. Bah, à ce moment-là, vous ne voulez pas l'évangile. Parce que l'évangile explique que, bien sûr, avec Dieu, il veut toujours notre bien. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne souffre pas. Pierre dit, il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu. Combien d'exemples dans la Bible nous pouvons soulever de personnes justes, honnêtes, qui faisaient le bien et qui pourtant ont souffert? Le plus grand exemple, Job. Mais il y a aussi Joseph. Il y a Moïse. Moïse, cet homme remarquable qui a eu une des tâches les plus difficiles de toute l'histoire, conduire ce peuple ingrat qui est le peuple d'Israël dans le désert pendant 40 ans. Et Pierre va prendre comme exemple Christ. Nous n'avons pas le temps ce matin de le voir, mais il va se servir de l'exemple de Christ. Christ a souffert. Est-ce que Christ était en dehors de la volonté de Dieu? Certainement pas. Et si Christ a souffert, étant dans la volonté de Dieu, pourquoi est-ce que nous pensons que nous n'allons jamais souffrir? Pierre dit, il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu. Et il nous apporte cette petite précision à la fin du verset, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Lorsque l'enfant de Dieu obéit à la parole de Dieu, met en pratique des commandements de Dieu, a un bon esprit, cherche à être une lumière dans ce monde de ténèbres, cherche à apporter la vérité, fait du bien autour de lui, cet enfant de Dieu aura par moments des soucis, aura de la souffrance. Et la tentation serait, face à cette souffrance, de dire, ça ne vaut pas la peine. Je vais faire comme moi, je veux, pour soulager ma vie, pour être bien, pour ne plus avoir ces soucis et ces ennuis, cette souffrance, je veux que les gens me laissent tranquille. Alors, au lieu d'obéir à ce que je sais de la parole de Dieu, pour rendre ma vie plus facile, je vais faire telle ou telle chose. Et je ne vais pas me conformer à la Bible. Je vais me permettre de ne pas être tout à fait honnête. Je vais faire des compromis. Et Pierre dit, à ce moment-là, on va souffrir quand même, mais ce sera parce qu'on aura fait le mal. Et quand on souffre, quand on fait le bien, Pierre dit, finalement, ça c'est mieux. Quelle perspective! Je suis convaincu que nous sommes tellement loin de cette perspective et je me mets dedans. Bien sûr, on n'aime pas la souffrance. Pierre, ici, ne dit pas que la souffrance est quelque chose qu'il faut rechercher et qu'à tout prix, il faut chercher à souffrir parce que comme ça, on est plus spirituel. Non. Mais lorsque la souffrance vient, parce que nous faisons le bien, ne soyons pas étonnés. Il va parler de la fournaise ardente. Ne soyons pas surpris par cette souffrance. Ne cherchons pas à lui échapper à tout prix. Et reconnaissons que c'est Dieu qui permet cela dans notre vie. Dieu n'a pas épargné son propre fils. Jésus est allé jusqu'à sur la croix pour nous, étant toujours dans la volonté de Dieu. Le jardin de Gethsémané, Jésus est là. Il est sous une telle pression, il transpire et sa transpiration devient des gouttes de sang. Vous imaginez? Et il a une volonté d'échapper à cette souffrance qui l'attendait. Il savait la souffrance de la croix. Pas simplement la souffrance morale, mais la souffrance physique. Il serait battu. On allait lui faire tant de choses. Et il dit, si c'est possible, mon Père, que cette coupe s'éloigne de moi. Mais qu'est-ce qu'il dit? Toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. Jésus a compris que la souffrance que Dieu avait préparée pour lui était nécessaire, faisait partie du plan de Dieu et qu'il devait passer par ça. Il a accepté, il a été obéissant jusqu'à la mort sur la croix. La souffrance peut-être par laquelle nous passons aujourd'hui parce que nous faisons le bien. Nous ne parlons pas de là où nous souffrons parce que nous agissons mal. Cette souffrance, entre guillemets, elle est normale. Mais lorsque nous souffrons parce que nous faisons le bien, et cela arrive, ne soyons pas déstabilisés par cela. N'ayons pas peur. Qu'est-ce que les hommes peuvent nous faire? Au final, rien. Cette souffrance, lorsqu'elle est selon la volonté de Dieu, nous devons l'accepter. Et nous pouvons avoir la bonne réaction face à cela. Jésus est notre exemple. Et lorsque nous sanctifions Christ comme Seigneur dans notre cœur, lorsque nous voyons qu'il est vraiment celui qui a le droit de nous dire ce que nous devons faire, ce que nous devons penser, quand il règne réellement, nous pouvons avoir cette optique et nous pouvons affronter des collègues de travail désagréables. Nous pouvons affronter un monde qui est hostile. Nous pouvons affronter des membres de la famille qui cherchent à nous faire du mal, à nous mettre des bâtons dans les roues. Nous pouvons affronter n'importe quelle souffrance parce que Dieu est avec nous. Et lorsque nous sommes dans cette perspective, c'est une conduite radicale. Il n'est pas étonnant que les chrétiens du premier siècle ont bouleversé le monde. Eux, ils avaient cette perspective. Pierre le leur rappelle ici. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Quelle est notre démarche? Est-ce que nous nous souvenons que Dieu est avec nous? Le Tout-Puissant! Et parce qu'il est avec nous, les hommes ne peuvent rien nous faire. Est-ce que nous comprenons que nous sommes dans la volonté de Dieu? Est-ce que nous acceptons toute chose de sa main? C'est ce que Dieu veut voir dans notre vie aujourd'hui, ici à Vernon, 21e siècle. Sommes-nous prêts à faire ce choix? Sommes-nous prêts à sanctifier Christ? Sommes-nous prêts à nous défendre avec douceur et respect? Est-ce que ce sera le témoignage de notre vie? Nous avons toute cette semaine devant nous. Nous aurons tant d'occasions de mettre ceci en pratique. Pendant cette semaine, reprenez ce passage. Réfléchissez. Est-ce que votre vie est conforme à ce que nous voyons ici? Demandez l'aide de Dieu pour cela. Sans son aide, on échouera. Sans son aide, on n'aura aucun succès. Mais avec son aide, on aura tout le succès au monde. Alors demandons son aide pour mettre ceci en pratique pendant cette semaine qui arrive. Oui, Seigneur, nous voyons ce que tu nous laisses dans ta parole. Nous voyons ce que tu attends de nous. Nous te remercions que tu nous as laissé cette parole pour que nous ne soyons pas dans le doute, pour que nous ne soyons pas livrés à nous-mêmes, à notre propre intelligence. Nous demandons ton aide parce que nous sommes insuffisants pour ces choses. Nous sommes faibles par notre propre force, mais avec toi, nous sommes plus que vainqueurs. Et par toi, nous pouvons toujours avoir la bonne réaction, la bonne attitude, les bonnes paroles dans toute situation, là même où on cherche à nous faire du mal. Que par ta puissance, tu nous donnes à chacun le désir d'agir comme ce passage, qu'il soit évident à travers cette semaine que c'est toi qui animes notre pensée, nos actions, nos paroles, que nous ayons cette vie radicale que Pierre décrit dans ce passage. Nous implorons ton aide, Seigneur, sans toi nous ne pouvons rien, avec toi nous pouvons tout. Et nous te louons d'avance pour ce que tu vas faire, en sachant que cela viendra de toi et que toute la gloire te revienne. C'est en ton nom que nous prions. Amen.